Nous eh bien commençons maintenant à examiner les sources de notre connaissance du bon Dieu. Elles nous viennent de Dieu, ces sources. Nous connaissons Dieu parce que le bon Dieu nous a donné les moyens de le connaître. Et quels sont ces moyens de le connaître ? Il y a un premier moyen, c'est notre raison, notre intelligence. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que ce moyen soit l'unique moyen. Ayant pitié, je dirais, de la faiblesse de notre intelligence et de la petitesse de notre intelligence, il a voulu, par un grand amour pour nous et une grande libéralité et une grande charité pour nous, il a voulu nous donner la foi, la révélation. Il s'est révélé à nous. Il a voulu nous dire ce qu'il était, lui-même, par sa parole, par son verbe, et particulièrement par son incarnation, l'incarnation du verbe de Dieu, de la parole de Dieu. Alors, voici ce que dit à ce sujet saint Thomas d'Aquin, enfin au moins les idées que saint Thomas nous donne à ce sujet qui sont toujours très, très enrichissantes et très un peu profondes, mais enrichissantes. Alors, l'auteur qui fait la traduction de saint Thomas, le père de Certilange, nous décitons ce passage touchant la haute convenance d'une révélation en matière de vérité rationnelle relative à Dieu. Parce que, vous voyez, même les vérités que notre raison pourrait trouver au sujet de Dieu, son existence, et puis son infinité et ses attributs, nous pourrions à la rigueur arriver à connaître ces attributs de Dieu, l'existence de Dieu par notre raison. Mais même ces vérités rationnelles, eh bien, le bon Dieu a voulu nous les révéler aussi. Il aurait pu nous révéler, par exemple, que les mystères, des choses qui dépassent notre raison, que notre raison ne peut pas connaître, absolument impossible. Par exemple, la Sainte Trinité. Bien sûr, la Sainte Trinité dépasse complètement notre raison. Nous aurions beau scruter toutes les créatures du monde et tout ce qui se passe ici dans ce monde, jamais nous ne découvririons la Sainte Trinité. Mais non seulement le bon Dieu a voulu nous révéler les grands mystères de Dieu, mais il a voulu aussi nous révéler les vérités que notre raison peut atteindre. Pourquoi cela? Alors, si ce genre de vérité était abandonné aux recherches de la seule raison, par exemple l'existence de Dieu, son infinité, son immensité, sa toute-puissance, que sais-je, trois graves inconvénients ne manqueraient pas de s'en suivre, dit saint Thomas. Tout d'abord, peu d'hommes arriveraient à la connaissance de Dieu, car trois obstacles s'opposeraient au fruit de la recherche studieuse qui est la possession du vrai. Certains en seraient empêchés par le défaut de leur complexion intellectuelle, car beaucoup sont en fait inaptes à la science, tellement que par aucune étude ils ne pourraient atteindre à ce sommet de l'humaine connaissance qui consiste à connaître Dieu. D'autres en seraient empêchés par les nécessités domestiques, car parmi les hommes, il est nécessaire qu'un grand nombre soit appliqué à l'administration des choses temporelles, et ceux-là n'ont pas le loisir de consacrer aux recherches contemplatives tout le temps qui serait requis pour s'élever jusqu'à ce fait de la recherche humaine qu'est la connaissance de Dieu. D'autres enfin seraient empêchés par la paresse d'esprit et la négligence. Quand il s'agit en effet d'une recherche rationnelle de Dieu, une foule de connaissances préalables sont requises, vu que la philosophie presque tout entière oriente ses considérations vers Dieu, en raison de quoi la métaphysique qui traite les choses divines vient en dernier parmi les branches philosophiques du savoir. Ce n'est donc que par un long et studieux labeur qu'on peut obtenir la vérité dont on parle, labeur que bien peu consentent à subir par amour de la science, quoique Dieu en ait inséré le désir naturel dans l'esprit des hommes. Un second inconvénient est que ceux qui parviendraient à la connaissance ou à l'invention de la connaissance de Dieu, de l'existence de Dieu, n'y atteindraient qu'après un long temps, soit à cause de sa profondeur, que les esprits les plus doués ne peuvent saisir au moyen de la raison qu'après un long exercice, soit à cause de nombreuses connaissances pré-exigées, ainsi qu'on l'a dit, soit encore en raison de ceci que pendant la jeunesse, l'âme agitée de passion flotte en divers sens et se trouve peu apte à découvrir une vérité si haute. C'est seulement lorsqu'elle s'apaise qu'elle devient prudente et savante, comme il est dit dans la physique d'Aristote. Si donc les voies rationnelles étaient seules ouvertes à la connaissance de Dieu, le genre humain serait livré aux ténèbres d'une grande ignorance. Du fait que cette connaissance de Dieu, qui plus que tout autre rend les hommes parfaits et bons, ne serait accordée qu'à un petit nombre, et pour ce petit nombre même après un long temps. Le troisième inconvénient est celui-ci. Les recherches de la raison humaine sont sujettes à beaucoup d'erreurs, soit à cause de la faiblesse de notre esprit dans l'acte du jugement, soit en raison des fantômes de l'imagination qui s'y introduisent. C'est pourquoi les choses les mieux démontrées demeurent en doute pour beaucoup, parce qu'ils en ignorent la preuve, et que d'autre part ils voient des hommes réputés savants enseigner des choses contraires. De plus, parmi les vérités obtenues par démonstration, des erreurs se glissent, qui elles ne sont pas démontrées. Concluons donc. La divine clémence a sagement disposé que les choses, même auxquelles notre raison peut atteindre, fussent imposées à notre foi, de telle sorte que tous facilement puissent devenir participants de la connaissance divine, et cela à l'abri du doute et de l'erreur. C'est pourquoi il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Ne vous conduisez pas désormais comme les païens, qui suivent la vanité de leurs pensées et dont l'intelligence est dans les ténèbres. » Et dans Isaïe, tous tes fils seront disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Voilà ce qu'enseigne saint Thomas, vous voyez. Il dit que grâce à la révélation, les hommes peuvent connaître d'une manière sûre et sans rapide la connaissance de Dieu, l'existence de Dieu. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans le credo, la première phrase est une phrase qui concerne pratiquement des vérités philosophiques, qui ne sont pas des vérités qui ont besoin d'une révélation spéciale. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae, Factorem visibilium et invisibilium. Cette première phrase est une vérité que nous pourrions connaître. Je crois en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Et donc, déjà, c'est magnifique que le bon Dieu nous ait révélé cela et nous ait mis ça comme objet de notre foi dans le credo. Nous n'avons plus besoin de chercher, nous n'avons plus besoin de faire une quantité de raisonnement en disant « Qui a créé les créatures ? Pourquoi faut-il qu'il y ait un créateur ? Parce que les créatures sont finies, parce que les créatures sont limitées, parce qu'elles n'ont pas leur raison d'être en elles-mêmes, etc. » Mais il faudrait raisonner ainsi pour arriver à découvrir « Il faut que Dieu existe. Il faut que Dieu, qu'il y ait un Dieu. » Eh bien, le bon Dieu, lui, nous a révélé cela. Il y a un Dieu, oui, qui a créé toutes choses, qui a créé les choses visibles et invisibles. Par conséquent, non seulement il nous enseigne la création de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous sommes, nous-mêmes, mais aussi les choses invisibles, nos âmes, création de nos âmes, création des esprits, tous les anges. Oui, c'est l'immensité déjà dans la première phrase de notre credo, l'immensité de l'étendue de nos connaissances. Notre connaissance, c'est incroyable. Quelle bonté de la part du bon Dieu de nous avoir révélé cela et de mettre cela dans notre credo. Alors remercions le bon Dieu qui nous donne comme connaissance, pour arriver à sa connaissance, la foi. Et la foi, c'est pratiquement la parole de Dieu. C'est la révélation. La foi pour objet la révélation. Qu'est-ce que c'est que révéler? C'est découvrir. Dieu découvre ses vérités par ses prophètes, par ses apôtres, par lui-même surtout, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car c'est lui le Verbe. Et lui qui illumine tout homme venant en ce monde. Illuminat omnem hominem veniat aminuc mundo. Nous le récitons tous les matins. Dans le premier évangile de Saint Jean, dans le premier chapitre de Saint Jean, de son évangile. Cet évangile est magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment une lumière projetée sur le bon Dieu extraordinaire. Jamais nous n'arriverons à pénétrer toutes les vérités, les vérités inimaginables qui sont exprimées dans cette petite page de l'évangile de Saint Jean. C'est pourquoi je pense l'Église a tant de joie à faire lire aux prêtres cette page de l'Évangile. Et vous savez que l'Évangile de Saint-Jean était très souvent utilisé, cette première page de l'Évangile de Saint-Jean, le proto-Évangile de Saint-Jean, cette première page de l'Évangile de Saint-Jean était utilisée comme exorcisme, souvent. Parce qu'elle est tellement inspirée du bon Dieu, elle est tellement pleine de grâce, pleine de lumière. Un principio era de verbum era Deum. La lumière du Verbe, la lumière de choses que nous ne connaissions pas, nous ne savions pas, tout cela. Grande découverte. Quand Dieu, il y a la parole, sa parole, sa propre parole, son Verbe, qui est, comme le dit saint Paul, la splendeur de sa majesté, la splendeur qui est reflétée dans le Verbe. Et c'est là aussi donc ce que saint Jean dit, que Dieu illumine tout homme venant en ce monde. Il nous donne la lumière. Eh bien, c'est notre Seigneur lui-même. Notre Seigneur qui est Dieu et qui par conséquent est hier, aujourd'hui et demain, eri, odie et in secula. Jesus Christus, eri, odie et in secula. Ego sum alpha et omega. Cette magnifique prière du samedi saint, vous savez, pour le cierge pascal, cette magnifique bénédiction où notre Seigneur se révèle. Toutes ces paroles sont splendides. On pourrait méditer, contempler ces choses-là indéfiniment. Alors notre Seigneur se révèle à nous, et ce Verbe s'est incarné, et verbum caro factum est. Pourquoi l'Église en général fait agenouiller, on s'agenouille devant une telle découverte, telle bonté, une telle grandeur de la part de Dieu. Dieu s'est fait chair parmi nous, le Verbe de Dieu, celui per quem omnia facta sunt, par qui tout a été fait, qui a tout créé, tout fait, qui soutient toutes les choses de ce monde. Et verbum caro factum est. Oui, s'est fait chair. C'est donc par lui surtout que nous aurons le moyen de connaître Dieu. Alors on pourrait se demander, et saint Thomas se pose la question, et Sainte Thérèse d'Avila aussi se pose la même question à propos de l'oraison. Est-ce qu'il est convenable de jeter les regards sur l'humanité de notre Seigneur dans nos oraisons, dans nos prières? Est-ce que le fait d'attacher nos regards à la personne physique de notre Seigneur, le voir dans sa crèche, le voir dans la présentation au temple, le voir dans la fuite en Égypte, le voir enfant au milieu des docteurs, le voir à Nazareth avec la très sainte Vierge Saint Joseph, le voir comme ça, le suivre, suivre notre Seigneur partout, partout, vivre avec lui, voir ses réactions, voir ses paroles, penser à lui. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas un obstacle à l'oraison? Parce que quand nous avons dans notre imagination le petit enfant Jésus au milieu des docteurs qui est en train de leur répondre à des questions difficiles, les docteurs estonnés. Alors si nous avons ça dans notre imagination, est-ce que c'est pas un obstacle à nous élever vers le bon Dieu? Eh bien, et saint Thomas et saint Thérèse d'Avila disent non, ça ne peut pas être un obstacle. Il est impossible que l'humanité de Dieu, que l'humanité qui a été prise par Dieu lui-même, qui est soutenue, assumée par Dieu, soit un obstacle pour aller à Dieu, alors qu'il a pris cette humanité pour nous faire monter vers le bon Dieu, pour nous sauver, pour nous élever vers Dieu. Donc c'est impossible, ce serait contraire à la volonté même de Dieu. C'est la seule exception, dirait prêtre, la seule exception. Donc, si nous voulons connaître mieux le bon Dieu, essayons de pénétrer un peu dans la pensée de notre Seigneur. Et songeons que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement un corps, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement en notre Seigneur que le corps et la divinité et le Verbe de Dieu. Il y a son âme. Il y a une âme. Et son âme est plus importante que son corps. Pourquoi plus importante que son corps? Parce que c'est par son âme que notre Seigneur Jésus-Christ a mérité le salut de nos âmes. S'il n'y avait eu que le corps tout seul, même si ce corps avait été offert en oblation, mais il n'y aurait pas eu de personne humaine. Il n'y aurait pas eu de nature humaine, il n'y aurait pas eu de... Donc, il y a eu une âme, une véritable âme avec son intelligence, avec sa volonté, avec... Il n'y a pas de personne, il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur, bien sûr, et de nature, donc la personne de Dieu, mais Dieu animait et soutenait cette âme. Et donc, à travers une âme qui, elle, diriger aussi les actions du corps que notre Seigneur s'est offert sur la croix. Alors il faut pénétrer un peu cette âme de notre Seigneur aussi, pour qu'elle nous apprenne ce qu'est Dieu. Et c'est une merveille que cette âme de notre Seigneur. C'est une créature tout à fait exceptionnelle. L'âme de notre Seigneur est remplie de la grâce, n'est-ce pas? Remplie de la grâce. Et puisque c'est même d'elle, de l'âme de notre Seigneur, que nous recevons toute grâce. C'est par elle, c'est elle qui est l'intermédiaire de toutes les grâces, qui est la source de toutes les grâces. Alors cette âme avait aussi quatre sciences, bien sûr, qui ne se gênaient pas l'une l'autre, qui se complétaient l'une l'autre en quelque sorte. Bien évidemment, on peut dire que on peut pas dire que ça ajoutait quelque chose à la science divine de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui peut être ajouté à la science divine de Dieu. Mais dans cet homme qu'était notre Seigneur, il y avait la science humaine, telle que nous l'avons, la science de notre intelligence, Il avait une intelligence humaine, donc une intelligence limitée, et une intelligence qui faisait des raisonnements aussi. Il a raisonné avec les apôtres, il a raisonné avec les docteurs du temple. Il avait la connaissance raisonnable, connaissance de la raison. Il a discuté avec les pharisiens, avec les scribes, il discutait avec eux. Donc il se servait de sa raison, de son intelligence, vous voyez. Ça, c'est sa première science, c'est une des sciences de notre Seigneur. Ensuite, notre Seigneur avait aussi la science infuse. La science infuse comme les anges. Les anges n'ont pas notre science, ils ont une science bien plus parfaite que la nôtre. Les anges ont la science infuse parce qu'ils reçoivent directement de Dieu des idées qui sont beaucoup plus parfaites que les nôtres. On a mis des siècles, si on peut dire, à découvrir certains principes, du monde matériel, par exemple, la science, de la physique, des sciences de la chimie, des sciences que sais-je, on a mis des siècles avant de découvrir certains principes. Tandis que les anges ont ces principes infus par le bon Dieu lui-même. Et dans ces principes, ils voient toutes les conséquences de ces principes. Ils ont donc une science très parfaite, très grande, très très grande. Ils connaissent beaucoup mieux les réalités terrestres, et toutes les réalités spirituelles, les réalités humaines que nous-mêmes, beaucoup mieux, sans comparaison. Parce que dans ces principes qui sont comme des grandes lumières en eux, ils voient toutes les conséquences. Ils connaissent toutes les espèces, par exemple, de toutes les créatures, tous les animaux que le bon Dieu a fait, les plus petits comme les plus grands, tout ça. Ils en connaissent parfaitement toutes les espèces, ils connaissent tout. Les végétaux, par exemple, et ils les connaissent tous. Ils voient ça dans les principes, avec toute la ramification, toutes les ramifications, tout cela. On a une science très grande, très grande. C'est la science intuitive, la science infuse, intuitive. Notre Seigneur avait cette science, puisqu'il était bien plus que les anges. Donc il avait cette science dans son âme humaine. Il avait une troisième science, c'est la vision béatifique. Il avait la vision béatifique. Là, c'est encore une science bien supérieure. Parce que, bon, les anges ont maintenant la vision béatifique aussi. Après ceux qui ont été fidèles à Dieu, le bon Dieu leur a donné la grâce de la vision béatifique, qui est encore beaucoup plus importante comme science que la science infuse qu'ils ont par leur nature. C'est la science de Dieu directement. Alors ils voient les choses en Dieu et par Dieu. Alors, d'une manière encore beaucoup plus parfaite, beaucoup plus profonde. Eh bien, notre Seigneur, sur terre, dès sa conception, dès que son âme était infuse dans son petit corps, dans le petit corps qui était dans le sein de la très sainte Vierge Marie, notre Seigneur avait toutes ces sciences-là, parfaites, parfaites. La science humaine, la science angélique, la science des élus, et puis la science de Dieu, puisqu'il était Dieu, la science, alors là, pas de limite, la science de Dieu elle-même. Alors imaginez ce qu'était cette âme de notre Seigneur et cette personne de notre Seigneur. Quel rayonnement, quelle science extraordinaire. Alors, tout en étant sur la terre, l'âme de notre Seigneur contemplait Dieu dans la vision béatifique. C'est d'ailleurs un des grands mystères de sa passion. On se demande comment notre Seigneur a-t-il pu souffrir dans sa passion alors qu'il avait la vision béatifique? Comment a-t-il pu souffrir dans son âme alors qu'il avait la vision béatifique, donc la vision qui lui donnait le bonheur? Vision béatifique, c'est-à-dire une vision qui remplit de joie, qui remplit de bonheur, qui inonde l'âme de bonheur. Alors, comment pouvait-il mon âme être triste jusqu'à la mort, triste à en mourir, en même temps qu'il avait la vision béatifique de Dieu? Alors saint Thomas dit que il y avait comme dans son âme l'étage supérieur, si on peut dire, de son âme, la fine pointe de son âme était dans le bonheur parfait, mais que dans les facultés inférieures de son âme, alors il pouvait souffrir, il a accepté toutes ses souffrances jusque dans son âme. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Comment notre Seigneur a-t-il pu exprimer une chose pareille? Deus, Deus, ut quid de reliquis stime? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourtant, lui, il avait à ce moment-là la vision béatifique. Alors, il y avait là presque une contradiction apparente. Alors il nous est bon d'entrer, je dirais, dans le sanctuaire de l'âme de notre Seigneur et demander à notre Seigneur, faites-moi connaître davantage Dieu. Vous êtes Dieu vous-même, faites-moi connaître ce que vous êtes. Faites-moi connaître un peu, un tout petit peu, ce que vous êtes par la connaissance, comme celle que nous aurons si vous nous donnez l'élection, enfin, que nous sommes élus au ciel, que nous sommes béatifiés. Faites-nous participer un peu, déjà maintenant, à cette connaissance, au moins. Connaissance par l'amour que nous avons pour vous. Si ce n'est pas la connaissance dans l'intelligence directement. Faites-nous connaître un peu Dieu comme les anges. Connaissent aussi, ils connaissent le bon Dieu, comme ils vous connaissent. Et puis illuminer notre intelligence humaine, pour essayer de qu'elle soit toute remplie du bon Dieu, qu'elle comprenne que Dieu est sa fin, que Dieu est son bonheur, que Dieu est sa science. Alors pénétrons comme cela, vivons dans l'âme de notre Seigneur, afin de mieux connaître Dieu, d'approcher un peu plus de Dieu, du grand mystère de Dieu. Et pourtant, voyez-vous, seule la personne divine qui était en notre Seigneur avait vraiment la parfaite connaissance de Dieu, la complète connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme de notre Seigneur ne pouvait pas l'avoir. Elle ne pouvait pas, même toute parfaite qu'elle était, toute remplie des grâces du bon Dieu, toute remplie de cette vision béatifique, mais c'était quand même limité. Il y a une immense distance entre la science que le bon Dieu avait par la vision béatifique et la science divine de Dieu qui tenait, qui animait ce corps, qui animait cette âme. Lui, c'est Dieu, donc Dieu a la science infinie. Il se connaît parfaitement, comme dans un miroir, il se connaît parfaitement. Tandis que dès qu'on descend, je dirais, à l'étage inférieur, à la vision béatifique, c'est tout de suite une vision limitée de Dieu. C'est impossible, même les élus, même la Sainte Vierge, qui a une vision béatifique certainement la plus étendue qu'on puisse avoir, certainement. Mais elle est limitée. On peut dire d'une certaine manière qu'elle ne connaît pas Dieu. Elle n'a pas l'intelligence de Dieu, en ce sens qu'elle n'a pas la compréhension de Dieu. Elle n'a pas la science divine. Elle n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Pour comprendre Dieu, pour arriver à pénétrer toute l'intelligence de Dieu, toutes les possibilités que le bon Dieu a d'agir, de penser, de cela. Il faut être Dieu. Or, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que des créatures, même la Sainte Vierge, donc très limitée. Nous connaissons Dieu comme il se connaît, en ce sens que c'est la même nature que sa connaissance, mais pas dans l'extension. Non, de loin pas. C'est impossible que nous connaissions Dieu. comme ça. C'est pourquoi nous ne connaîtrons jamais l'infinité de Dieu. Nous connaîtrons Dieu infini, qui est infini, mais nous ne connaîtrons pas l'infinité de Dieu parce que nous sommes limités. Et que Dieu est illimité, que Dieu n'a pas de limite, n'a pas de mesure, il est sans mesure. Immensus, immense, ça veut dire sans mesure, immensus, sans mesure. Et nous, nous sommes bien sûr très mesurés, même avec la vision béatifique. Mais je dirais que c'est une consolation. C'est à la fois, évidemment, une humilité pour nous, c'est une occasion d'humilité. Parce que ben, nous sommes bien peu de choses, évidemment, par rapport à Dieu, nous sommes... Mais c'est en même temps une consolation, parce qu'on dit, ben alors, jamais notre bonheur ne cessera, je dirais, parce que nous pourrons toujours connaître le bon Dieu davantage et jamais nous ne le connaîtrons comme il est, jamais nous n'arriverons. C'est là le grand mystère du bon Dieu, le grand mystère de la connaissance de Dieu. Alors voyez-vous, à l'occasion de cette source, je dirais, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, source de notre connaissance de Dieu, et à l'occasion de ce contact, c'est-à-dire avec l'humanité de Dieu, nous verrons après comment notre Seigneur s'est révélé lui-même, nous le verrons un peu plus en détail. Comme on dit, il a révélé la connaissance de Dieu. Mais à cette occasion, je voudrais faire une petite parenthèse sur les divers livres qui nous parlent de Dieu. Je vous dirai quelques mots de la Bible et du Nouvel Évangile, enfin de l'Évangile, Nouveau Testament. Là, nous sommes sûrs de ce que nous lisons, de ce que nous apprenons, de ce qui nous est découvert de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Là, il n'y a aucune hésitation, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est de foi. Nous n'avons pas le droit de douter un instant que la Sainte Écriture est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des apôtres. C'est Dieu qui parle à travers les apôtres, bien sûr, qui s'est servi de leur intelligence, qui s'est servi de leur mémoire, qui s'est servi de leur amour, tout ça, de leur faculté. Mais c'est lui l'auteur principal. Les apôtres ne sont que des instruments, comme un porte-plume. Comme le porte-plume est l'instrument de notre écriture, eh bien, les apôtres ont été des instruments intelligents. Le bon Dieu s'est servi de leur intelligence, s'est servi de leur mémoire, s'est servi de leur connaissance, mais ils sont des instruments de Dieu. Ce qui en a résulté, dans l'écriture, la parole qui en est résultée, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui est responsable de tout ce qui a été écrit. En ce cas-là, nous n'avons pas de doute, lorsque nous lisons la Sainte Écriture, nous savons que c'est Dieu qui parle. Donc, ce qui est dit là, il n'y a pas de doute. Mais, dans toutes les bibliothèques de nos couvents et de nos séminaires, et de l'Église, il y a eu combien d'écrivains qui ont écrit sur notre Seigneur. On pourrait remplir une bibliothèque, rien qu'avec ces choses, évidemment. Alors, il y a certainement des choses très bonnes, très saintes, on sait, qui sont approuvées par l'Église, l'imitation de Jésus-Christ, tous ces livres sur l'Écriture sainte, certains commentaires d'Écriture sainte, les évangiles expliqués, les livres ne manquent pas. Mais nous avons d'autres livres, alors, qui ne sont plus seulement des explications de la Sainte Écriture ou commentaires de la Sainte Écriture, mais qui se donnent pour être aussi une certaine révélation sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez, par exemple, un dernier livre qui est apparu et qui est assez lu, dans les mains de pas mal de personnes, c'est le livre de Maria Valtorta. Vous avez sûrement entendu parler de ce livre-là, et vous l'avez même peut-être lu vous-même, le livre de Maria Valtorta, qui est énorme. Alors, je ne sais plus combien, 13 volumes, je crois. Voilà. 13 volumes sur la vie de notre Seigneur. Alors, que faut-il penser de cela? Il faut vraiment faire très attention, de ne pas accorder immédiatement foi parce que cette personne qui se dit inspirée, qui dit avoir eu tout ce qu'elle décrit en vision, c'est particulier, dans tous les détails, des tout petits détails, vraiment, ça va jusqu'à des choses très très insignifiantes, les apôtres sont décrits dans les moindres détails, les conversations entre les apôtres, la très sainte Vierge, entre Philippe, entre Jacques, entre celui-ci, le caractère de celui-ci, le caractère de celui-là, tout est décrit dans les plus petits détails, Moi, j'avoue que je n'ai lu une partie parce que le Père Mariel était très en faveur des 13 livres de Maria Valtorta. Il en était convaincu que c'était absolument vrai, que ça ne pouvait pas ne pas être vrai. Ça lui faisait tellement de bien. Je ne dis pas que ça ne fasse pas du bien, parce que le fait de rentrer comme ça, je dirais, dans la compagnie des apôtres, de la Sainte Vierge, de voir vivre la Sainte Vierge, de voir vivre l'enfant Jésus, ça, de le voir grandir, de le voir ainsi. Ça, c'est vrai que ça met dans une ambiance je ne sais pas, qui fait vivre davantage peut-être avec notre Seigneur. Mais il y a un danger aussi. C'est que ça peut, faire descendre un peu l'idée que nous nous faisons de notre Seigneur lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit simplement l'Écriture et les commentaires d'Écriture, on reste à un niveau très spirituel. Parce que justement, les évangiles ne sont pas entrés dans tous ces détails. Physique, matériel, la maison, Nazareth, dans tous ces petits détails et tout. La cuisine qui est préparée, les aliments qui sont cuits, les détails, les petits oiseaux qui sont dans la cage et tout ça. Enfin, ça a quelque chose de ravissant, c'est prenant. Mais il y a peut-être aussi un inconvénient, c'est de faire descendre, je dirais presque, la vie de notre Seigneur à notre niveau, au niveau de la vie d'un saint. Sans doute, le bon Dieu a voulu vivre quand même parmi nous, c'est clair. Il n'a pas voulu vivre en ange, il n'était pas comme Raphaël qui accompagnait Tobie, qui a dit « Vous croyez que je mangeais ?» En fait, je ne mangeais pas. Parce que je me nourris d'un autre aliment. Je suis celui, un des sept, qui se tient devant la majesté divine. Tobie, ils sont tombés par terre. Tellement ils étaient effrayés de penser ça. Comment ça? Et ils semblaient manger et ils ne mangeaient pas. Est-ce qu'on peut dire ça de notre Seigneur? Je ne crois pas. Notre Seigneur a vraiment voulu vivre comme l'un des nôtres. Quand notre Seigneur mangeait, il mangeait. Il n'avait pas un corps simplement apparent. C'est un véritable corps. Il a pris un corps comme le nôtre. Il a souffert dans son corps. Son sang a coulé. Alors il y a un petit danger de se laisser, de trop matérialiser, je dirais presque, la vie de notre Seigneur.
C'est Maria Valtorta qui m'en veut.
Il me dit, il ne parlera plus maintenant. Mais j'ai lu un peu de Maria Valtorta. Et...
Alors, je suis tombé sur un passage, à fois qui ne m'a pas plu beaucoup, je vous assure. La conversation de Marie-Madeleine avec la Très Sainte Vierge au pied de la croix. Vraiment, je ne crois pas que Marie-Madeleine a dit des choses comme ça à la Sainte Vierge. C'était vraiment presque grossier. Hein? Marie-Madeleine s'adressant à la Très Sainte Vierge dit, toi tu es pur, toi tu es pur, moi tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis une impure, moi je suis ceci, moi je suis cela, tandis que toi tu es ceci. Ça ne tombe pas, ouais, quelque chose. Moi, ça m'a choqué. Ça ne reste pas à la Sainte Vierge comme ça. Pourquoi rappeler ces adultères, sa vie dissolue, etc. Et d'une manière presque grossière. Bah, je ne pense pas que ce soit... C'est impossible que Marie-Madeleine se soit adressée comme ça à la Sainte Vierge au pied de la croix. Pas possible. Alors, je ne sais pas. Moi, j'avoue que j'ai mis un point d'interrogation sur ces révélations. Hein. Je vous le dis parce que je crois que c'est même pas important. Il faut rester tout de même au niveau de la connaissance de notre Seigneur, à la connaissance de l'Évangile, et tout ça, au niveau de l'Évangile. Pas descendre dans des choses. Bon. Il y en a d'autres de ces vies. Vous savez bien, Catherine Emmerich, Marie d'Agreda. Et je pense qu'il y a des choses qui sont très belles. Elles sont peut-être beaucoup plus approuvées, celles-là, que Maria Valtorta. Ça peut faire beaucoup de bien. Je ne doute pas. Mais enfin, je pense qu'il faut tout de même pas donner à cela l'équivalence de l'Évangile. On peut quand même mettre ça sur le pied de l'Évangile. Je pense que nous avons d'ailleurs, je dirais, tellement de livres aussi, de livres de saints et de saintes qui ont décrit leur vie avec notre Seigneur. Leur vie avec, tout ce qui les a inspirés, n'est-ce pas? Je vois que je prolonge un peu trop. Mais on ne remplacera jamais l'Écriture sainte. Par conséquent, nous devons avoir une grande estime pour cette parole de l'Évangile et essayer de découvrir davantage le bon Dieu par l'Évangile.